Pour la première fois, Luoji éprouvait la sensation d'un rêve devenu réalité. Il était persuadé que la promesse de Garanin n'était qu'une fanfaronnade. Oh, bien sûr, il aurait trouvé un endroit magnifique à l'écosystème encore préservé, mais le lieu aurait forcément été très différent de celui qu'il avait imaginé. Cependant, lorsqu'il descendit de l'hélicoptère, il eut l'impression de poser les pieds dans son propre rêve. Au loin, des monts enneigés. Devant lui, un lac bordé par une prairie et une forêt. Tout, jusqu'à leur emplacement, était identique au dessin qu'il avait présenté à Garanin. C'était surtout la pureté émanant de ce lieu qu'il n'aurait jamais osé imaginer. Tout paraissait sorti d'un conte de fées. Une fragrance sucrée planait dans la fraîcheur de l'air. Même le soleil paraissait saupoudrer avec prudence les plus doux et les plus exquis de ses rayons. Plus incroyable encore, un domaine avec une villa se trouvait réellement en bordure du lac, conformément à ce que lui avait dit Kent qui avait fait le voyage avec lui. La bâtisse avait été construite au XIXe siècle. Elle semblait pourtant plus ancienne, car les empreintes du temps la laissaient se fondre harmonieusement dans son environnement. Ne soyez pas surpris. Parfois, il arrive aux hommes de rêver d'endroits existant réellement, dit Kent. Quelqu'un habite-t-il ici? Demanda Luoji. Pas dans un rayon de 5 kilomètres. Il y a quelques petits hameaux un peu plus loin. Luoji crut deviner qu'il se trouvait en Europe du Nord, mais il ne posa pas la question. Kent l'emmena dans la villa. Dans le salon de style européen, Luoji remarqua immédiatement la cheminée et les bûches de bois fruitier parfaitement entassées à côté de l'âtre, qui répandaient dans la pièce un délicieux parfum évoquant la fraîcheur de la nature. « Le propriétaire de la villa m'a chargé de vous présenter ses respects. Il est très honoré qu'un colmateur puisse venir habiter ici, » dit Kent. Il lui expliqua ensuite qu'outre les installations demandées par Luoji, le domaine disposait aussi d'une écurie de 10 chevaux, le moyen de transport idéal pour se rendre dans la direction des montagnes, d'un terrain de tennis, d'un parcours de golf, d'une cave à vin et, sur le lac, d'un yacht à moteur et de quelques voiliers. En dépit de sa façade ancienne, tout était très moderne à l'intérieur de la villa. Chaque pièce était équipée d'un ordinateur, d'une connexion haut débit, d'un téléviseur avec câble satellite et bénéficiait d'une salle de projection numérique. À son arrivée, Luoji avait de plus remarqué un héliport qui n'avait visiblement pas été construit de façon temporaire. « Le propriétaire doit être très riche ?»«
Plus que ça. Il n'a pas voulu révéler son identité, autrement vous auriez sûrement reconnu son nom. »
Il a légué cette propriété aux Nations Unies, un domaine encore plus vaste que celui offert autrefois par Rockefeller. En ce qui vous concerne, vous avez uniquement le droit d'y résider. Mais vous n'êtes pas lésé. Lorsque le propriétaire a quitté les lieux, il a indiqué avoir emporté toutes ses affaires. Le reste de son patrimoine vous appartient. Les tableaux, à eux seuls, ont énormément de valeur. Kent lui fit visiter chaque pièce. Il remarqua que le propriétaire avait très bon goût. La décoration de toutes les chambres offrait un sentiment d'élégante sérénité. Une grande partie des livres de la bibliothèque étaient de vieilles éditions en latin. Quant aux peintures, elles étaient principalement modernistes, mais ne paraissaient pas en décalage avec l'atmosphère classique de l'ensemble. Luoji constata que ne s'y trouvait aucune peinture de paysage, ce qui témoignait d'une sensibilité esthétique aiguë. Accrocher des tableaux de paysage dans cette villa au cœur du jardin d'Éden aurait été aussi superflu que verser un tonneau d'eau dans l'océan. Une fois de retour dans le salon, Luoji s'assit dans un confortable fauteuil à bascule installé devant la cheminée. Il tendit la main pour saisir un objet qui reposait sur la petite table à côté. Une pipe avec un long manche, de style occidental, utilisé dans les fumoirs intérieurs par les personnes issues des classes aisées. Il observa les étagères blanches sur le mur et se demanda quelles œuvres d'art avaient bien pu être emportées. Kent fit ensuite entrer quelques personnes qu'il présenta à Luoji, son intendant, son cuisinier, son chauffeur, son responsable d'écurie et son conducteur de yacht, tous autrefois au service de l'ancien propriétaire du lieu. Quand ils eurent pris congé, Kent lui présenta un lieutenant-colonel en civil chargé de sa sécurité. Après qu'il eut quitté la pièce, Luoji demanda à Kent s'il savait où avait été envoyé Shixiang. « Il a changé de service et n'est plus en charge de votre protection. Il a dû rentrer en Chine. »
« Je souhaite le nommer à la place de cet officier. Il m'a l'air plus compétent. »
« J'ai le même sentiment, mais il ne parle pas anglais. Ce n'est pas très indiqué pour ce poste. »
« Dans ce cas, remplacez tous les gardes du domaine par des Chinois. »
Kent promit qu'il passerait quelques coups de fil, puis il partit. Luoji sortit lui aussi de la pièce, traversa le gazon parfaitement entretenu du jardin et emprunta une jetée qui menait au milieu du lac. Au bout de la jetée, il s'accouda à la rambarde et contempla le reflet des monts enneigés sur la surface miroitante de l'eau. Tout alentour baignait dans une atmosphère doucereuse, et sous les rayons resplendissants du soleil, Luoji se dit à lui-même « Que peut bien valoir le monde dans 4 siècles par comparaison à ma vie d'aujourd'hui ? Au diable le programme colmataire !»«
Comment ont-ils pu laisser ce bâtard entrer ici ?»
grommela un chercheur devant son écran.
« C'est un colmateur, bien sûr qu'il peut entrer !»
répondit son voisin, toujours à voix basse. « Rien que de très banal, n'est-ce pas ? Vous devez être déçu, monsieur le président, » dit le docteur Allen, qui dirigeait le laboratoire national de Los Alamos, tandis qu'il accompagnait Ray Diaz devant une rangée de terminaux informatiques. « Je ne suis plus président !» répliqua inébranlablement Ray Diaz, en jetant des regards tout autour de lui. « Ce n'est après tout qu'un centre de simulation d'armes nucléaires. Il y en a 4 ici, à Los Alamos. » Et 3 au laboratoire de Lawrence Livermore. Ray Diaz remarqua 2 objets qui, eux, sortaient de l'ordinaire. Les gadgets avaient l'air très neufs. Ils disposaient de larges écrans d'affichage et de panneaux sur lesquels étaient installées des manettes de belle facture. Il s'approcha pour les examiner de plus près, mais Allen le tira légèrement en arrière. Ce sont des consoles de jeux vidéo. Nos ordinateurs ne permettant pas de jouer, nous avons installé ces 2 appareils pour que le personnel puisse se détendre pendant les pauses. Ray Diaz nota la présence de 2 autres installations inédites, transparentes et à la structure complexe, dans lesquelles du liquide était secoué. Une fois encore, il s'en approcha tandis qu'Allen secoua la tête en souriant mais sans l'arrêter. « Un humidificateur d'air. Le climat est très sec ici au Nouveau-Mexique. Et là, c'est simplement un distributeur automatique de café. Mike, prépare une tasse pour Monsieur Ray Diaz. Non, non, pas ici. Va plutôt prendre du café frais dans mon bureau. » Ray Diaz se contenta alors de regarder les grandes photos en noir et blanc accrochées au mur. Il reconnut Robert Oppenheimer, figure malingre avec un chapeau et une cigarette à la bouche, tandis qu'Allen lui désignait une nouvelle fois les insipides terminaux informatiques. « Vos écrans sont trop anciens, » lâcha Diaz. « Mais derrière eux se trouvent les ordinateurs les plus puissants du monde, capables de mener des calculs avec 500 trillions de décimales. » Un ingénieur arriva et s'adressa à Allen. « Docteur, le modèle AD4453OG a fonctionné cette fois. »«
Parfait.
Nous avons dû interrompre temporairement le module de sortie, » ajouta l'ingénieur à voix basse en jetant un œil sur Ray Diaz. « Remettez-les en route, » fit Allen. Puis il se tourna vers Ray Diaz. « Vous voyez, nous n'avons rien à cacher au colmateur. »
Des bruits attirèrent l'attention de Ray Diaz. Il remarqua que des membres du personnel étaient en train de déchirer des feuilles de papier. Croyant qu'ils étaient en train de détruire des documents, il marmonna. « Vous n'avez même pas de déchiqueteur à disposition ?» Il remarqua néanmoins qu'il déchirait des feuilles vierges destinées à l'impression. Quelqu'un cria alors « Over !» et tous lancèrent en l'air leurs lambeaux de papier déchirés dans des acclamations de joie. Le plancher, déjà en désordre, ressembla encore davantage à une poubelle. C'est une tradition dans les centres de simulation. Lors de la première explosion de la bombe atomique, le docteur Fermi avait lui aussi lancé des bouts de papier en l'air. En calculant la distance précise à laquelle ils avaient été soufflés par l'onde de choc, il avait pu estimer la puissance de la bombe. Aujourd'hui, chaque fois qu'une simulation est réussie, nous reproduisons le même rituel. Rei Diaz épousseta les bouts de papier retombés sur sa tête et ses épaules.
« Vous procédez quotidiennement à des essais nucléaires. C'est devenu aussi facile pour vous qu'un jeu vidéo. Nous ne pouvons pas. Nous n'avons aucun supercalculateur. Nous devons effectuer des tests grandeur nature. Une même pratique, mais ce sont toujours les pauvres qui trinquent. »
Monsieur Rei Diaz, personne ici ne s'intéresse à la politique. Le colmateur continua à examiner quelques terminaux en détail, mais il ne vit rien d'autre que des colonnes de données et des courbes fluctuantes, si bien qu'il n'était pas aisé de reconnaître une quelconque figure ou un quelconque motif dans ces nuages de graphiques abstraits. Tandis que Rei Diaz s'approchait d'un nouveau terminal, le physicien assis devant leva la tête de son écran et lança
« Monsieur le Président, si vous cherchez un champignon atomique, vous n'en verrez aucun ici. »
« Je ne suis plus président, » réaffirma Diaz en prenant le café que lui avait apporté Mike.
« Et si nous discutions plutôt de ce que nous pouvons faire pour vous rendre service ?»
proposa Allen.
« Concevoir une bombe nucléaire ?»«
Naturellement. Bien que le laboratoire national de Los Alamos abrite d'autres instituts de recherche, j'ai deviné que vous n'étiez pas venu ici pour une autre raison. Pouvez-vous nous en parler en termes plus concrets ? Quel type de bombe ? De quelle puissance ?
Le CDP vous communiquera prochainement les exigences techniques détaillées. Je ne vous parlerai ici que du point essentiel. Elle sera puissante, la plus puissante possible. La limite minimale que je vous donne est 200 mégatonnes.
Allen fixa longuement Diaz, puis il baissa la tête et réfléchit un moment.
« Cela va prendre du temps. N'avez-vous pas déjà un modèle mathématique correspondant ?
Nous avons ici des modèles mathématiques pour tout type de bombes, d'une puissance de 500 tonnes à 20 mégatonnes, des bombes à neutrons aux EMP, mais la puissance que vous exigez est bien trop colossale. C'est au moins 10 fois plus que la plus grande arme nucléaire actuelle. »
Le déclenchement et le processus d'exécution de la fusion thermonucléaire seraient radicalement différents de ceux d'une bombe ordinaire. Il nous faudrait créer une nouvelle structure. Aucun modèle ne correspond actuellement.
Ils discutèrent encore de la planification globale du projet et, au moment de prendre congé, Allen confia.
Monsieur Rei Diaz, je sais que vous êtes entouré des plus brillants physiciens du monde. Je suppose qu'ils ont dû vous expliquer certaines choses en matière d'utilisation d'armes nucléaires dans une guerre spatiale.
Répétez toujours.
Très bien. Dans une guerre spatiale, une bombe atomique s'avère en réalité une arme de faible efficacité, car une explosion nucléaire ne provoque aucune onde de choc dans le vide de l'espace, et la pression de radiation est pour sa part insignifiante. Aussi, une telle explosion ne pourrait provoquer les dégâts mécaniques qu'elle ferait dans l'atmosphère. Toute l'énergie est libérée sous forme de radiation et d'impulsions électromagnétiques. Et même chez nous, les humains, les technologies de protection anti-radiation et de blindage électromagnétique sont déjà très poussées pour les engins spatiaux.
Et si la cible est directement atteinte ?
C'est une autre histoire. À ce moment-là, c'est la chaleur qui joue un rôle décisif. Elle peut faire fondre la cible, voire la vaporiser. Mais une bombe de plusieurs milliers de kilotonnes aurait la taille d'un immeuble. Je crains qu'il ne soit pas évident de la projeter directement sur une cible. En réalité, du point de vue des dégâts mécaniques qu'elle provoquerait, une telle bombe ne vaudrait pas un missile à énergie cinétique. En termes d'intensité des radiations, mieux vaudrait utiliser une arme à faisceau de particules et, concernant enfin les dégâts causés par son énergie thermique, un laser à rayon gamma serait plus efficace.
Mais les armes dont vous parlez n'ont jamais été utilisées dans un combat réel. La bombe nucléaire reste à ce jour l'arme la plus puissante et la plus mature réalisée par l'homme. Quant au problème d'efficacité en matière d'attaque spatiale que vous évoquez, votre rôle sera d'imaginer des moyens de l'améliorer, en ajoutant par exemple un support intermédiaire qui engendrerait une onde de choc, un peu comme si l'on mettait des billes de métal dans une grenade.
C'est en effet une possibilité intéressante. Je reconnais là vos compétences en sciences et en ingénierie, dont vous êtes diplômé, si je ne me trompe pas.
J'ai étudié l'énergie atomique, ce qui peut expliquer mon intérêt et mon affection pour la bombe nucléaire.
Hé hé, mais j'oubliais, c'est ridicule de discuter de ces questions avec un colmateur. Tous deux se mirent à rire, Mais Rey Diaz redevint vite sérieux. « Docteur Allen, comme tous les autres, vous voyez les stratégies des colmateurs comme plus mystiques qu'elles ne le sont. La bombe à hydrogène étant actuellement l'arme la plus puissante en notre possession, il est tout à fait naturel que je m'y intéresse, n'est-ce pas? Je crois que mon approche est la bonne. »
Ils s'arrêtèrent de marcher. Ils avaient rejoint un petit sentier sombre qui coupait à travers la forêt.
Fermi et Oppenheimer ont marché à d'innombrables reprises le long de ce sentier, expliqua Allen. Après Hiroshima et Nagasaki, beaucoup des architectes de la première génération de bombes nucléaires ont été en proie à la dépression pour le restant de leur vie. Cela les consolerait peut-être de savoir là-haut ce que l'humanité compte faire de l'arme qu'ils ont créée.
Quelle que soit la peur qu'elle inspire, une arme reste une bonne chose. Ce que je veux vous dire, c'est que la prochaine fois que je viendrai ici, j'espère que je ne vous verrai plus lancer des bouts de papier en l'air. Nous devons donner aux intellectrons une impression d'ordre et de propreté.
Keiko Yamasugi se réveilla au cœur de la nuit. Elle remarqua qu'elle était seule dans le lit et que l'autre côté du matelas était froid. Elle se leva, enfila une veste et sortit de la chambre. Comme chaque fois, elle reconnut dès le premier coup d'œil la silhouette de son époux dans le bosquet de bambou du jardin. Ils avaient deux propriétés, une en Angleterre et l'autre au Japon, mais Heinz préférait leur maison japonaise. Il disait que la lune d'Orion avait le pouvoir d'apaiser son âme. Mais il n'y avait aucun rayon de lune aujourd'hui, et le bosquet de bambou, tout comme la silhouette en kimono, avait perdu tout relief. On aurait dit des œuvres en papier découpé noir accrochées sous les étoiles. Heinz entendit les pas de Keiko. Cependant, il ne regarda pas en arrière. Étrangement, Keiko portait les mêmes chaussures en Angleterre et au Japon. Elle ne chaussait jamais de guetta, même dans son pays natal. Mais il n'y avait qu'ici qu'il pouvait entendre ses pas, jamais en Angleterre.
« Mon chéri, cela fait déjà plusieurs jours que tu as des insomnies. » dit Keiko en s'efforçant de parler à voix basse,
mais les insectes d'été interrompirent leur concert de stridulation et tout fut submergé par un océan de silence. Elle entendit alors le soupir de son époux.
« Keiko, je n'y arrive pas. Je n'ai pas d'idée, je n'ai vraiment aucune idée.
Personne n'en a vraiment. Je crois qu'il n'existe aucun plan qui permette à coup sûr de remporter la victoire. » Elle avança encore de deux pas, mais garda une distance de quelques branches de bambou.
Ce bosquet, c'était leur espace de méditation. C'était ici qu'ils puisaient leur inspiration pour leur recherche. S'ils n'apportaient d'ordinaire aucune intimité dans ce lieu sacré, ils se traitaient l'un l'autre avec une profonde courtoisie dès lors qu'ils se trouvaient au milieu de cette atmosphère imprégnée de philosophie orientale.
« Bill, tu devrais te détendre. Essaie simplement de faire de ton mieux. » Il se retourna, mais dans l'obscurité du bosquet, les traits de son visage étaient indistincts.
« Comment pourrais-je? Le moindre de mes pas nécessite le déploiement de ressources colossales. »
« Et si tu t'y prenais autrement ?» répondit-elle, avec une telle rapidité qu'elle semblait de toute évidence avoir réfléchi à la question.
Choisis une direction qui, même si elle finit par échouer, aura au moins eu des bénéfices au cours de son exécution.
Keiko, c'est justement ce à quoi j'étais en train de penser. Et voici ce que j'ai décidé. Si je n'arrive pas à trouver une idée moi-même, je peux au moins aider les autres à en avoir.
Quels autres, les colmateurs?
Non, ils ne sont pas bien meilleurs que moi. Je parle des générations futures.
Keiko, as-tu déjà pensé à cette réalité?
Pour produire des changements notables, l'évolution biologique met généralement 20 000 ans au bas mot. Or, la civilisation humaine n'a que 5 000 ans d'histoire et la civilisation technologique moderne à peine 2 siècles. Nous étudions aujourd'hui les sciences modernes avec le cerveau de créatures primitives.
Tu voudrais accélérer l'évolution du cerveau grâce à la technologie?
Keiko, ce que nous faisons, ce sont des recherches en neurosciences. Nous devons maintenant concentrer davantage d'énergie à les élargir pour imaginer la conception d'un système de défense planétaire.
Si nous rassemblons tous nos efforts, nous pourrons peut-être dans un ou deux siècles accroître l'intelligence humaine de telle manière qu'elle puisse échapper à l'emprise des intellectrons. Pour des spécialistes de notre domaine, l'intelligence est un concept vague. De quoi veux-tu exactement parler ? Je veux parler de l'intelligence au sens large, pas seulement la définition traditionnelle de l'intelligence comme capacité à faire usage d'un raisonnement logique. J'inclus aussi l'aptitude à apprendre, l'imagination, la créativité, le sens commun, l'accumulation d'expériences et la faculté de préserver une vigueur intellectuelle. J'englobe même l'endurance mentale, la faculté à pouvoir évacuer la fatigue, à faire fonctionner le cerveau sans interruption pendant une longue période, voire à supprimer le besoin de dormir, etc. Comment procéder ? As-tu déjà une idée ? Non, pas encore. Peut-être pourrions-nous connecter directement le cerveau à un ordinateur, ce qui permettrait aux capacités de calcul de la machine d'amplifier l'intelligence humaine. Ou bien créer une interface directe entre plusieurs cerveaux humains en fusionnant la pensée de plusieurs individus. Il y a aussi la mémoire génétique. Mais quelle que soit la manière avec laquelle nous essaierons d'élever l'intelligence, nous devons avant tout comprendre en profondeur les mécanismes de la pensée dans le cerveau humain. Et c'est précisément ce que nous essayons de faire dans nos recherches. Il faut donc continuer, comme avant. La différence, c'est que nous pouvons mobiliser maintenant des ressources énormes. Mon chéri, je suis si heureuse. C'est vraiment excitant. Mais pour un colbateur, est-ce que ce plan n'est pas un peu trop indirect ? Mais Keiko, réfléchis. Le sort de la civilisation humaine reposera en définitive dans les mains des humains eux-mêmes. Élever l'intelligence de notre propre espèce, n'est-ce pas là un plan avec une réelle vision à long terme ? Et puis, que pourrais-je faire d'autre ? Bill, c'est formidable. Essayons de réfléchir. Si nous décrétons la recherche sur le cerveau et la pensée cause mondiale, et que nous pouvons lancer des investissements tels que nous n'aurions jamais pu les imaginer, combien de temps cela prendrait-il avant les premiers succès ? Sans doute un siècle environ. Soyons un peu plus pessimistes et comptons en deux. Les humains auront encore devant eux deux siècles d'intelligence supérieure. Admettons que nous mettions un siècle entier à développer les sciences fondamentales et encore un pour passer de la théorie à la transformation technologique. Et même si nous échouons, nous aurons tout de même accompli un projet qui aurait, tôt ou tard, dû être mené. « Keiko, suis-moi jusqu'au dernier jour », murmura Heinz. « Oui, Bill, nous avons encore du temps devant nous. » Les insectes du bosquet qui s'étaient habitués à leur présence reprirent leur cri-cri mélodieux. À cet instant, une brise souffla à travers les bambous et les étoiles scintillèrent entre les feuilles. C'était comme si le cœur des insectes provenait des astres. La deuxième audience des colmateurs au Conseil de défense planétaire durait depuis déjà 3 jours. Taylor, Ray Diaz et Heinz avaient exposé la première phase de leurs projets respectifs et les représentants des membres permanents du CDP avaient entamé des discussions préliminaires. Ray Diaz et Heinz avaient déjà soumis leur projet lors de la dernière audience, tandis que Taylor venait tout juste de remettre le sien, si bien que les représentants étaient particulièrement impatients de connaître les détails de ce plan venant d'émerger à la surface. Taylor commença par esquisser les grandes lignes de son projet. « J'ai besoin d'établir une flotte spatiale dont j'aurai le commandement. » Cette première phrase suscita aussitôt la réaction des 2 autres colmateurs qui levèrent la main. « Les projets de M. Heinz et moi-même ont été condamnés ici pour leur utilisation de ressources excessives, » anticipa Ray Diaz. « Cette proposition est absurde. M. Taylor voudrait posséder sa propre armée spatiale. » « Je n'ai pas parlé d'armée spatiale, » rectifia calmement Taylor. « Mon intention n'est pas de commander des croiseurs stellaires ou des navettes de transport, mais simplement une flotte de chasseurs spatiaux. Ceux-ci auront à peu près le même volume que les avions de chasse volant aujourd'hui dans l'atmosphère terrestre et n'auront à leur bord qu'un seul pilote. Ils seront comme des moustiques dans l'espace, d'où le nom de mon projet, Essaim de moustiques. » Cependant, le nombre de ces appareils devra être au moins équivalent à celui des vaisseaux envahisseurs trisolariens, soit 1000 chasseurs. « Et vous avez l'intention d'attaquer la flotte trisolarienne avec vos insectes ?
Leurs piqûres ne leur feront même pas l'effet d'une chatouille, désapprouva un membre du comité d'audience. Taylor leva le doigt. Pas si chaque appareil est équipé d'une bombe à hydrogène de plusieurs centaines de mégatonnes. J'aurais donc besoin de disposer de la technologie de la superbombe en train d'être développée. Ne soyez pas outré, monsieur Ray Diaz. Vous n'avez pas le droit de refuser. Selon les principes du programme Collmateur, cette technologie n'est pas votre propriété privée. Une fois qu'elle sera développée, j'aurai le droit d'en faire usage.
Je ne vous poserai qu'une question. Êtes-vous en train de plagier mon plan ? Cracha Ray Diaz.
Taylor répondit avec un sourire ironique. Allons, un collmateur dont le plan pourrait être imité serait-il un collmateur ?
Vos moustiques n'iront pas bien loin. De tels gadgets pourront seulement prendre part au combat à l'intérieur de l'orbite de Mars, n'est-ce pas ?
Interrogea Garanin, le président tournant du CDP.
Méfiez-vous, à la prochaine étape, il va exiger un porte-vaisseau,
gloussa Hines. Taylor répondit avec assurance.
Ce ne sera pas nécessaire. L'escadron de mes chasseurs de combat pourra s'assembler en une seule et même entité. Un peloton de moustiques, en quelque sorte. Ce peloton sera lui-même son propre porte-vaisseau et sera propulsé par un turboréacteur externe ou bien par les moteurs d'une partie des chasseurs qui le composent. Une fois qu'il aura atteint sa vitesse de croisière, sa capacité à parcourir de longues distances ne sera pas inférieure à celle des vaisseaux de grande taille. Lorsqu'il aura rejoint la zone de combat, le peloton se décomposera et tous les chasseurs pourront prendre part individuellement à l'attaque.
Votre peloton de moustiques devra naviguer au moins plusieurs années avant de gagner la zone de défense encerclant le système solaire. Pendant ce long périple, qu'adviendra-t-il des quelques milliers de pilotes dans leur cabine de pilotage, où ils ne pourront même pas se mettre debout ? Quel genre de provisions pourrez-vous stocker dans de si petits appareils ? Interrogea un représentant.
« L'hibernation, » répondit Taylor. « Ils devront hiberner. Mon plan repose donc sur l'achèvement de deux technologies, la miniaturisation des superbombes et celle des équipements d'hibernation. Hiberner pendant des années dans un cercueil en métal, puis se réveiller et se lancer aussitôt dans une attaque suicide. Admirable métier que celui de pilote de moustiques, » fit Hines.
L'exaltation de Taylor s'évanouit. Il demeura un long moment silencieux et finit par hocher la tête.
« Ouais, c'est la partie la plus délicate du plan essaim de moustique. »
Des documents détaillés du projet de Taylor furent transmis à tous les membres du comité d'audience et, en l'absence d'autres débats, le président leva la séance.
« Cette fois encore, Luoji ne s'est pas présenté ?» demanda le représentant américain, irrité.
« Il ne viendra pas, » répondit Garanin. « Il a indiqué que son isolement et sa non-participation aux réunions du CDP faisaient partie de son plan. »
En entendant cela, des murmures se répandirent parmi les membres du comité. Certains paraissaient agacés, tandis que d'autres arboraient des sourires énigmatiques.
« Un bon à rien, un fainéant !» s'emporta Ray Diaz.
« Et comment vous définiriez-vous ? » lui rétorqua Taylor en levant la tête, traitant sans aucune considération cet homme dont il comptait pourtant emprunter la technologie.
« Pour ma part, » ajouta Hines, « je souhaiterais exprimer tout mon respect au docteur Luoji. Il se fait une idée juste de lui-même et est conscient de ses capacités. C'est pourquoi il refuse de gaspiller des ressources de façon inconsidérée. »
Puis il se tourna gracieusement vers Ray Diaz.
« Monsieur Ray Diaz pourrait le prendre en exemple. »
Chacun pouvait voir que Taylor et Hines ne prenaient nullement la défense de Luoji, mais que leur inimitié envers Ray Diaz était bien plus profonde. Garanin abattit son marteau en bois sur la table.
Les paroles du colmateur Ray Diaz n'étaient pas appropriées. Je vous rappelle que vous devez le respect aux autres colmateurs. Je rappelle de même aux colmateurs Hines et Taylor que leurs propos n'ont rien à faire dans cette réunion.
Hines prit la parole.
« Monsieur le Président, tout ce que nous pouvons voir du plan du colmateur Ray Diaz n'est rien d'autre que de la brutalité militaire. Après l'Iran et la Corée du Nord, son pays a fait l'objet de sanctions pour avoir développé l'arme nucléaire et les bombes sont devenues pour lui une obsession pathologique.
Il n'y a d'ailleurs pas de différence fondamentale entre le projet de construction d'une gigantesque bombe à hydrogène et l'essaim de moustiques de M. Taylor. Ce sont des projets décevants. Tous deux révèlent de façon transparente leurs intentions dès leur mise en place. Nous étions en droit d'attendre mieux de la part de collimateurs.
« Monsieur Hines, » riposta Taylor, « votre plan n'est quant à lui rien d'autre qu'un rêve bien naïf. »
L'audience terminée, les collimateurs se rendirent dans la salle de méditation, leur endroit favori au siège des Nations Unies. Il semblait à présent que cette petite chambre conçue pour réfléchir avait été construite spécialement pour eux. Rassemblés ici, ils attendaient en silence, conscients qu'ils ne pourraient jamais communiquer leurs vrais sentiments avant l'ultime bataille. Le bloc de magnétite gisait silencieusement au milieu d'eux, absorbant et compilant leurs pensées, comme un témoin muet. Hines demanda à voix basse.
« Avez-vous entendu parler des fissureurs ?»
Taylor hocha la tête. « L'OTT vient d'annoncer le début de cette opération sur son site officiel. La CIA aussi a confirmé leur existence. » Une nouvelle fois, les collimateurs sombrèrent dans le silence, imaginant l'aspect de leurs fissureurs respectifs. Cette image reviendrait ensuite sans cesse dans leurs cauchemars, jusqu'au jour où ils leur apparaîtraient peut-être en chair et en os et signeraient leur fin.